Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Il fait parler les murs, elle fait parler les objets. Il vient de présider le jury de l'équerre d'argent remis la semaine dernière à un jeune architecte, Charles-Henri Tachon. Quelles sont les qualités aujourd'hui privilégiées dans le bâti? Les ronds-points solidaires à la reconstruction de Notre-Dame? Comment repenser le rôle de l'architecte aujourd'hui? À partir de 12h55, rendez-vous avec l'un de nos grands architectes, Paul Chemetoff, et notre invité. Avant cela, Christine Montalbetti, double actualité, un roman, Mon ancêtre poisson, chez POL, et une toute première mise en scène. Sa conférence des objets vient de débuter au studio théâtre de la Comédie Française, à voir jusqu'au 5 janvier. Elle est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Dans la conférence des objets, vous donnez vie et donnez voix à une dizaine d'objets si quotidiens qu'on ne les remarque plus, qu'on ne les respecte plus. Un parapluie, un abat-jour, une boîte à couture, un pelle-pomme de la famille des épluches-légumes. Ils racontent leur vie cachée, leurs désirs, leurs craintes, leur sort, celui qui leur est réservé. Nous, les objets, quelques-uns, ce soir, on va sortir de notre silence. On a des choses à vous dire. Bonjour Christine Montalbetti.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes, vous, une femme matérialiste?
Grande question. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Finalement, notre expérience du monde, c'est d'abord immédiatement une expérience tactile. Et le rapport que nous entretenons avec tous ces objets qui sont autour de nous, que nous touchons, sans nous en rendre compte, dont nous avons pris l'habitude, j'avais envie, oui, de raviver notre rapport à ces objets et ces sensations comme ça qui sont au fond le cœur de notre du fait d'exister, voilà, ils sont là au centre de notre façon d'exister.
Comment est née l'idée de ce drôle d'inventaire?
Je crois qu'au départ, c'est né du fait que dans mes romans, j'aime bien de temps en temps faire un petit zoom sur un objet, beaucoup sur des insectes, mais aussi sur des objets. Par exemple, dans Journée américaine, il y a un sucre qui a peur qu'on le choisisse pour l'ébouillanter dans le café. Déjà, dans l'origine de l'homme, il y avait un apron qui rêvait de s'enfuir par une fenêtre entrouverte. Et c'est une manière pour moi de parler d'émotions fortes, de la peur de la mort, du désir de fugue, mais d'une manière humoristique. C'est-à-dire au moment même où je touche à ces émotions-là, de faire sourire le lecteur alors qu'il s'agit de choses graves. Et j'ai eu envie d'étendre en fait ça à un texte entier. Et ça m'a paru amusant de le faire pour le théâtre, parce que ça n'était pas tout à fait évident de faire jouer des objets à des acteurs, et j'avais envie de travailler dans cette direction.
On peut continuer à tirer le fil de la présence des objets dans vos romans. Hein. Vos personnages n'ont pas toujours d'ailleurs un rapport apaisé aux choses, du petit fauteuil replet qui a ce petit quelque chose de fourbe dans Trouville Casino à l'hostilité sourde de ces objets qui se tiennent compacts et serviles dans l'évaporation de l'oncle en 2011. Des objets donc qui sont là, qui sont des présences autour de nous, parfois hostiles, parfois réconfortantes, et à qui vous donnez la parole dans cette conférence des objets. D'ailleurs, ils nous appellent aussi, dès le début, très rapidement, avec ce pelle-pomme, à porter attention aux objets qui nous entourent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez autour de vous dans ce studio? Quels sont les objets?
Alors,
il y aurait peut-être des choses à nous dire.
Je vois un clavier d'ordinateur qui, avec toutes ses lettres, aurait mille choses à nous raconter. Je vois une souris. Je vois aussi une petite affiche parce que les micros ont changé. Donc, je suis un peu troublée. On ne peut plus s'en approcher autant qu'avant. On se sent moins protégé par la présence du micro. Et ces affiches expliquent qu'il ne faut pas se rapprocher trop, mais utiliser un angle à 45 degrés. Il y a une petite bouteille d'eau aussi.
En plastique, et ça, il ne faut pas le dire.
Ah.
Non, mais c'est étonnant ce micro. C'est vraiment, c'est vrai. En plus, c'est l'objet même auquel on parle à longueur de journée.
Ouais.
Et qui aurait peut-être, lui, pas mal de choses aussi à nous dire, non?
C'est sûr, oui. Et sa petite bonnette aussi.
En quoi vous aimeriez vous réincarner, Christine Montalbetti, si vous pouviez? Vous seriez quoi? Un porte-manteau, un rocking chair, une carafe à vin?
Je crois que je serais une vieille machine à écrire noire américaine, celle qu'on voit de ces auteurs américains des années 50 sur les photographies en noir et blanc. Ça fait un peu mal à pulpe des doigts quand on quand on tape, mais ce sont des beaux objets qui, à partir desquels on peut écrire 1000 récits.
D'ailleurs, dans cette conférence des objets, les livres ne prennent pas la parole. Pourtant, il y a toujours un livre dans un appartement comme celui que vous avez reconstitué pour cette pièce. Pourquoi ? Vous ne les considérez pas comme des objets ? Vous leur prêtez une autre existence, une existence propre au livre ?
On parle d'un livre qui est décrit, dans lequel une carte postale a été laissée longtemps et dont finalement le parapluie qui raconte cette histoire dit qu'il s'agit de Croc-Blanc. C'est un peu comme une énigme, cette description de paysage. Pendant un temps, j'avais pensé à une carte postale, parce que j'avais un peu discuté avec Claude Mathieu, qui m'avait parlé d'une carte postale qu'il avait comptée dans son enfance. Mais je trouve que ces objets-là, la carte postale, le livre, sont des objets qui ont tellement à voir avec le geste de création, que ça risquait de créer une espèce de petit effet de mise en abîme qui n'était pas forcément ce que je souhaitais. Je préférais que ce soit des objets peut-être plus quotidiens ou plus... qui n'est pas ce double fond de la perspective artistique qui aurait fait tenir un autre discours.
Mais d'ailleurs, justement, est-ce que les livres sont toujours pour vous la voix de ceux qui les écrivent ?
Je crois, oui. Quand je lis, ce que j'aime par-dessus tout, c'est me tenir dans la phrase. J'aime que la phrase soit confortable, qu'elle m'accueille. C'est vraiment le lieu dans lequel je me tiens quand je lis, beaucoup plus que l'histoire. C'est la voix, oui, la voix de chaque auteur.
C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas forcément nécessaire de leur prêter ou de leur donner une voix. C'est qu'ils racontent déjà la vie cachée de leurs auteurs, toujours, entre les lignes.
Oui, peut-être.
Ou peut-être pas. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, les hommes, les femmes, au fond, des objets ? Qu'est-ce qui distingue les vivants des objets pour vous ?
Oh, il y a beaucoup de choses qui nous distinguent. Ça fait partie aussi de leur discours, tantôt de nous tendre un miroir et puis tantôt au contraire de nommer leurs différences d'avec nous et leur étonnement, par exemple, devant la fragilité des corps vivants et la difficulté que nous pouvons éprouver par rapport à ça, le fait que, comme le dit la boîte à couture, quand un être humain sort d'une pièce, on ne peut pas être sûr qu'il y entrera de nouveau. Les corps vivants exposés aux dangers de la ville, moi c'est une chose qui, je crois, qui me trouble dans chaque au revoir. Cette idée-là, pas toujours exprimée, mais toujours en filigrane, qu'il n'est pas sûr qu'on se revoie. Voilà, ça c'est une chose qui trouble mes objets. Et puis le rapport à la sexualité aussi dans la fin de la pièce et qui leur manque, le rapport à la procréation.
La sexualité, la conscience, le rire formulé peut-être aussi, vous évoquiez la boîte à couture, on écoute Claude Mathieu, la comédienne qui l'incarne, membre de la troupe du Français.
Quand je l'attends comme ça, je ne suis pas fière. Je sens que ça s'agite en moi. Le moindre retard qu'elle a me met dans des états. Alors, je m'occupe en recensant ce qu'il y a dans ma boîte. Je vérifie, je recompte, je me fais mes petits inventaires. Ça me distrait un peu de mon inquiétude. Parce que bon sang, ça ne me sort pas de la tête. Toutes ces imaginations de catastrophe, son corps offert à tous les dangers de la ville, ça me chavire de penser à ça. Son corps chaud et vivant, et puis quoi ? Un bus qui déboule ! Une voiture ! Et tout ce vivant réduit à néant.
Voilà, on les découvre, ces objets, tels cette boîte à couture incarnée, on l'évoquait, par la sociétaire de la Comédie Française, Claude Mathieu. On les découvre partagés entre une envie de révolte et l'affection qu'ils portent à leur propriétaire. Dans cette pièce à voir en ce moment au Studio Théâtre de la Comédie Française jusqu'au 5 janvier. En vérité, c'est surtout nous qui leur sommes souvent très attachés à ces objets, hein, n'est-ce pas, Christine Montalbetti ?
Oui, c'est vrai.
On en a hérité, on les a rapportés de voyage. On les a acquis dans certaines circonstances. Ils condensent 1000 souvenirs, en fait.
Ils sont des preuves de moments de notre existence et ils les contiennent dans une certaine mesure. En tout cas, on a le sentiment qu'ils les contiennent. Et voilà, leur présence peut aussi être comme un prolongement de présence de ce qui s'est enfui, de ce qui a disparu, de ce qui s'est évanoui.
Qu'est-ce qu'on gagnerait à prendre du temps à les regarder autrement, à poser nos yeux réellement sur eux et écouter ce qu'ils ont à nous dire, de nos passés, de nos vies, de nos souvenirs.
Je pense qu'on y gagne, on y gagnerait la capacité de rêver un peu plus, peut-être, quelque chose aussi qui nous rend à nous-mêmes, qu'est-ce qui nous rappelle nos histoires singulières, nos histoires propres. Après, c'est aussi une fantaisie, et quand je fais dire, par exemple, au Pelle-Pomme dans le prologue que peut-être ce soir, en rentrant, vous aurez envie de saluer la patère à laquelle vous accrocherez votre manteau, je ne souhaite pas tout à fait que vous le fassiez. Mais que quelque chose, oui, que quelque chose soit ravivé de ce rapport-là aux objets et plus largement à la matérialité du monde comme aussi une source de plaisir.
Et pourtant, certains d'entre eux sont aussi notre mauvaise conscience. Pourquoi ?
En tout cas, dans mes romans, il arrive que les personnages aient la sensation que les objets sont hostiles, leur sont hostiles. Je crois que c'est une manière de... d'évoquer aussi leur propre histoire, leur relation entre eux, leur relation au lieu. Vous avez parlé du petit fauteuil replay dans Trouville Casino où ce retraité se trouve dans une maison qui n'est pas la sienne et il a le sentiment que tous ses meubles ont une histoire qui s'est passée sans lui et qu'il ne l'accueille pas. Et puis vous avez cité aussi l'évaporation de l'oncle qui se passe dans le Japon ancien, et ça vient aussi du fait que j'avais fait des recherches sur les yokai, qui sont ces esprits japonais qui en particulier animent les objets la nuit. Dans les cuisines japonaises, il n'est pas rare qu'une spatularie se mette à danser, et voilà, j'avais aussi envie d'évoquer ça, cette espèce de vivacité comme ça des objets, cette fête nocturne et secrète qu'il mène dans les contes japonais et dont on peut entendre un petit prolongement ici.
D'une certaine manière, vous les anthropomorphisez, ces objets. On va écouter les mots du philosophe Bruno Latour qui définit ce qu'il appelle la cosmopolitique et qui déplore à travers ça un monde dans lequel les vivants se sont coupés des non-vivants.
La politique n'a jamais été simplement celle des humains. Elle a toujours été intéressée par des tas d'autres choses, des choses justement, qui vont des paysages à l'agriculture, aux voitures, aux villes, aux infrastructures. Tout maire, tout député, c'est ça très bien. Simplement, notre réflexion politique a isolé un certain nombre de situations et on a transformé la politique en des humains parlant à des humains à propos de sujets humains. Alors qu'en fait, ça n'a jamais été que ça. Ça a toujours été un brassage d'éléments cosmologiques beaucoup plus vastes.
Ah, ça c'est sa définition de la politique, sur cette séparation aujourd'hui. Ça c'est vrai que du Japon, on peut aussi s'inspirer de ces cultures, de ces traditions qui consistent à traiter autrement que nous le faisons ici, ceux qui nous entourent, c'est-à-dire les objets, c'est-à-dire aussi les animaux, c'est-à-dire aussi la nature, à y porter un regard différent, à créer une alliance entre les vivants et les non-vivants, plutôt qu'à nous opposer. Vous êtes d'accord avec cette définition qu'il évoque ?
Oui, c'est plus largement. Enfin, là, l'enjeu est un peu différent, mais plus largement, oui, c'est une manière aussi de. C'est aussi une manière d'approcher des sujets d'une façon. Le fait de ne pas avoir des personnages anthropomorphes, ça permet de dire les choses un peu autrement, de modifier le regard.
C'est quand même assez culotté de votre part aujourd'hui de libérer la parole des objets, tandis que d'autres de cesser d'essayer de libérer la parole des femmes. Peut-être que chacun a autant à nous dire finalement, non ?
Oui, mais de toute façon, c'est voilà, dans leur lutte, il y a aussi un miroir de nos luttes.
En quoi ?
Mais par exemple, autour des questions qu'ils posent de leurs usages, de la manière dont ils peuvent être utilisés, ou bien de façon perverse, ou détournés. Ou même dans leur usage propre, la façon dont ils sont exploités, la question de la pénibilité qui est posée explicitement par le parapluie, ce qu'ils peuvent vivre, leurs revendications. Il y a tout un moment comme ça où la lampe se propose d'être légérie, comme ça, d'un mouvement qui permettrait aux objets de sortir de la glu dans laquelle ils sont et des phénomènes de surexploitation. auxquels ils sont confrontés.
Des objets qui nous observent et qui nous envient aussi, qui envient notre complexité, écrivez-vous Christine Montalbetti, parce qu'il faut voir toutes les émotions dont vous êtes capable, qui vous agitent en permanence. Le charivari que c'est à l'intérieur des gens, dit la lampe dans la conférence des objets. Vous évoquiez la sexualité tout à l'heure, on pourrait parler du sentiment amoureux qui est peut-être, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, la chose la plus évidente et la plus complexe chez l'homme, non ?
Oui, sans doute. plus largement, ça m'intéresse beaucoup cette histoire des sentiments contradictoires qui nous traversent, cette histoire de la complexité justement. Et j'essaye vraiment, enfin souvent un personnage est associé à une émotion, à une. J'essaye au contraire de travailler cette complexité à l'intérieur de mes romans et d'essayer de montrer dans un même instant, un tout petit instant, tous les sentiments contradictoires qui peuvent nous traverser et qui bataillent entre eux. Et voilà, cette petite bataille comme ça qui a tout constamment lieu en nous et que cette lampe qui parle de la complexité des personnes vivantes, que cette lampe trouve fascinante parce que c'est une chose évidemment qui lui est étrangère.
Une romancière au théâtre, Christine Montalbetti, est notre invitée jusqu'à midi et demi à l'occasion de sa toute première mise en scène, sa conférence des objets qui vient de débuter au studio théâtre de la Comédie Française, à voir jusqu'au 5 janvier. Le texte est aussi publié et c'est chez POL, son éditeur bien sûr.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Il y a 10 ans, vous répondiez à une commande de Denis Podalydès. C'est le Cat Jekyll, pièce devenue opéra l'an passé, dont vous avez écrit le livret. Des petites formes aussi pour la Comédie Française et une fiction radiophonique pour France Culture, La Maison Imaginaire. Aujourd'hui, première mise en scène pour une institution, la Comédie Française, qui vous a invité, et c'est aussi la particularité de cette maison, à écrire pour sa troupe. Comment vous avez travaillé avec elle, avec ses comédiens ?
En fait, j'ai souhaité faire un entretien avec chacun d'eux avant de me mettre à écrire. J'ai commencé par les interroger sur leur rapport aux objets, puis sur les objets qui avaient compté pour eux, avant de leur parler du projet. Et puis ensuite, je leur ai demandé éventuellement quels objets ils se verraient incarner, mais en les prévenant que ça ne m'engageait pas du tout à choisir ces objets-là. Et puis, après, à partir de ces rencontres, j'ai choisi les objets qu'ils incarneraient. Donc certains, le pelle-pomme par exemple, c'est un objet dont je ne connaissais pas l'existence. C'est Hervé Pierre qui m'en a appris l'existence, donc il est devenu un pelle-pomme. Pour d'autres, ce sont des objets qu'ils avaient évoqués, qui sont devenus les objets qu'ils rêveraient d'être, mais qui ne sont pas les objets qu'ils incarnent dans la pièce. Et ensuite, le travail a consisté à la fois à trouver un fil, et qui est l'absence de cette propriétaire, leur inquiétude croissante devant son retard, comme ça, qui construit une petite progression dramatique, et puis à essayer d'écrire pour chacun à la croisée de leur imaginaire et du mien, et aussi en anticipant, dans la mesure où c'était possible, leur voix sur ces textes, leur corps sur ces textes. Et c'est une chose que je trouve très, très belle, ça, d'écrire pour un acteur. Et ça avait déjà été le cas de ma première expérience de l'écriture pour le théâtre, qui était donc le Cat Jekyll pour Denis Podalydès, d'essayer de penser à ce qui me touche chez un acteur et à ce que j'ai envie aussi d'approfondir. Ça peut être aussi parfois quelque chose que je trouve peu évoqué, peu travaillé par un metteur en scène. Et voilà, par exemple, au moment où j'avais écrit le Cat Jekyll, Denis Podalydès était beaucoup utilisé dans des rôles comiques et beaucoup avec cette voix de fausset qu'il peut avoir. Mais il a un très grand registre et j'avais envie de travailler aussi le registre romantique. Et à travers ce personnage de Jekyll Hyde, j'avais vraiment l'occasion de travailler sur toutes ces voix-là. La voix de fausset pour Hyde qui venait contaminer comme ça le discours de Jekyll. Et là, ça a été un travail aussi qui consiste aussi à leur rendre hommage dans l'écriture et à essayer de les emmener vers ce que j'aime de leur jeu d'acteur particulier à chacun.
C'est du sur-mesure, d'une certaine manière.
Oui.
Et en même temps, à partir du moment où on écrit pour la Comédie Française, est-ce que le texte entre automatiquement au répertoire ?
Alors, techniquement, n'entre au répertoire que ce qui est joué dans la salle Richelieu, ce qu'on appelle strictement le répertoire de la Comédie
Voilà, donc
française.
Il n'est pas dit qu'en fait, ce texte que vous avez pensé et élaboré aussi, dans cet échange avec des comédiens de la troupe, sera repris par d'autres, passera dans d'autres bouches. Vous n'avez pas cherché quelque chose d'assez finalement universel à leur dire ou à leur faire dire pour imaginer que d'autres pourront l'incarner le lendemain.
Je pense que d'autres l'incarneront, le texte est publié et j'espère que d'autres comédiens auront envie de tenter l'aventure et d'autres metteurs en scène parce que la mise en scène que j'ai faite, c'est la façon dont j'entends le texte, mais il y aurait plein d'autres façons de le monter et j'espère que j'aurai l'occasion d'en voir d'autres. Mais disons que dans le moment d'écriture, pour moi, c'était important que ce soit un peu comme un cadeau que je faisais à chacun en travaillant dans cette espèce d'espace que je m'imagine commun entre leur imaginaire et le mien et voilà, d'écrire pour leur singularité.
Est-ce que votre écriture, Christine Montalbetti, ses rangées sont trop discutées derrière cette nouvelle perspective? Est-ce qu'elle a obtempéré? Est-ce qu'écrire cette pièce en dialogue avec les comédiens pour le théâtre et pour le public qui viendra la voir a changé votre manière d'écrire?
C'est peut-être trop tôt pour que je le sache parce que je viens juste de terminer la mise en scène et du coup j'ai eu très peu de temps pour écrire pour moi pendant ces 2 mois, j'ai pratiquement pas écrit. Donc je ne sais pas encore ce que ça va changer. C'est possible que ça change en tout cas ma manière d'écrire pour le théâtre, d'avoir eu cette expérience de travail du jeu avec eux comme ça pendant 2 mois.
Qu'est-ce qui vous séduit dans l'aventure théâtrale ?
Évidemment, les énergies collectives, le fait de quitter la solitude de la table de travail devant la fenêtre, qui est un lieu que j'aime immensément, qui est fondamental pour moi, mais qui est un lieu solitaire, et de travailler comme ça collectivement, c'était pour moi une expérience formidable. À la fois évidemment de travailler avec les acteurs, mais aussi toutes les énergies qui sont autour, le travail de la scénographie, le régisseur, le travail sur la lumière aussi qui m'a beaucoup intéressée. J'ai demandé à Catherine Vered qui avait éclairer la version opéra du Cat Jekyll, de travailler sur ce spectacle. Elle a fait une lumière vraiment magnifique et c'était passionnant de discuter avec elle.
Vous soulignez autour de cette pièce la puissance d'affirmation du théâtre. Est-ce que ça change beaucoup du roman, de l'écriture romancée ?
Oui, sans doute. Enfin, l'idée qu'on écrit pour une parole proférée, je pense que ça, c'est une première chose. Et puis aussi, ce qui m'a intéressée, c'est que au fond, quand je me suis demandé comment faire incarner des objets, ça me paraissait un peu... J'aime pas beaucoup le mot défi, mais ça me paraissait quand même un défi. Je ne savais pas que je le mettrais en scène quand j'ai écrit le texte. Et j'étais très curieuse de voir quelle réponse on me donnerait dans la mise en scène. Et puis j'ai été bien attrapée quand Eric Ruff m'a proposé de faire moi-même la mise en scène. Et je me suis dit, au fond, peut-être que c'est pas différent de dire « je suis une lampe » et de dire « je suis Phèdre ». C'est aussi faux et aussi vrai dans l'instant de théâtre. Et du coup, j'ai trouvé ça assez passionnant, cette puissance de l'affirmation de la parole au théâtre. Et à la fois, j'avais déjà joué avec dans l'écriture, puisque le parapluie commence par prétendre qu'il y a un bouchon de pêche. Et ça a été très amusant, ça, de travailler dans le jeu cette construction d'un mensonge. Et puis, brusquement, la révélation que non, ça n'est pas cet objet qu'il est. Et voilà, de jouer sur ce trouble-là. Au fond, quand un acteur nous dit qu'il est quelque chose, on y croit. Et quand il nous révèle que ça n'était pas ça, alors quelque chose se brise et puis se reconstruit. Et oui, ça m'a intéressé de travailler autour de ça, de ce statut de la parole théâtrale et de la parole de l'acteur et de la parole du personnage.
Des objets qui parlent et un arrière-arrière-grand-père panthéiste, comme dans Mon ancêtre poisson, votre dernier roman, qui reste une invitation à prêter attention à tout ce qui nous entoure, les êtres et les objets, mais aussi les animaux et les plantes, on l'évoquait. À l'instar de cet ancêtre jardinier, puis botaniste au Jardin des Plantes, il avait, lui, le geste naturel, Christine Montalbetti, on dit écologique aujourd'hui, mais il était connecté presque en tout point, cet arrière-arrière-grand-père à qui vous rendez hommage dans ce nouveau roman, à la nature qui l'entourait.
Oui, il a commencé à travailler comme jardinier à l'âge de 9 ans. Plus tard, il est devenu botaniste et il a vécu très longtemps puisqu'il est né en 1833, il est mort en 1919. Et donc oui, il y a toute une vie de rapport à la nature et aussi de traversée de l'histoire et aussi de découvertes matérielles puisqu'on parle aussi de la matérialité des objets, le passage de la bougie à d'autres formes d'éclairage, la découverte des machines pour enregistrer les voix grâce auxquelles nous pouvons dialoguer aujourd'hui toutes les deux et parler aux auditeurs, la découverte du cinéma, voilà, tout ça qui sont des choses aussi que j'évoque dans le récit en essayant de retrouver la surprise que ça a dû être de pouvoir entendre des voix, voir des corps bouger sur un écran. Et aussi, j'ai été frappée par le fait que, à l'époque, dans les articles scientifiques, on parle du fait que c'est une manière de garder des traces des gens de la famille, des gens qui vont disparaître, des morts, ces enregistrements, aussi bien sonores qu'au cinéma. Et ça m'a touchée, parce que ce livre, c'est aussi une histoire de ça, de fantômes, de comment rencontrer mon arrière-arrière-grand-père grâce à l'espace du récit.
Jules Poisson, cette figure donc que vous racontez aussi, est-ce qu'il y a un geste généalogique? Est-ce qu'il y a une part d'atavisme aussi? Est-ce qu'il vous a tendu un miroir, cet arrière-arrière-grand-père?
Je crains de ne pas avoir la main verte du tout. Mais voilà, je me suis amusée aussi parfois à nous trouver des ressemblances dans les articles que j'ai lus de lui, dans son rapport dans la manière dont il nommait les choses.
Avec cette proximité que vous retranscrivez par cette adresse directe, à la fois au lecteur et à lui, par ce tutoiement.
Oui, pour moi c'est très important de m'adresser aussi au lecteur, et comme la pièce aussi dont on a parlé est très adressée au spectateur.
Voilà, c'est un si loin, si proche. Mon ancêtre Poisson, apparu à la rentrée chez POL, et votre conférence des objets vient de débuter au studio Théâtre de la Comédie-Française jusqu'au 5 janvier. Merci beaucoup à vous, Christine Montalbetti.
Merci.
Merci.